Actu SF, les podcasts.
Donc voilà, ça va en mieux. Donc merci d'être venus si nombreux, mais il reste encore nous de place au premier rang pour les derniers qui veulent venir. S'il y a un quart de Japonais qui a décidé de se poser, on a la place de les accueillir. Et aujourd'hui, nous avons un immense plaisir et un immense honneur de recevoir Christopher Priest, que certains d'entre vous ont peut-être vu hier au cinéma lors de la séance de projection de Prestige. Christopher Priest est un des auteurs anglais les plus éminents et les plus, un de ceux qui sont les plus connus dans notre milieu. Et on a la chance de l'avoir ici. Et son dernier livre, qui traite en particulier de 2001, du 11 septembre 2001, vient de paraître chez De Noël. Il doit être là. Et donc je vous encourage à jeter un coup d'œil. Voilà, je vais lui laisser la place. Et il a la chance d'être accompagné par son traducteur émérite, Lionel Davous, qui est aussi un auteur émérite. Et donc on est tous un peu jaloux, parce que faire tout ça, et en plus en étant beau gosse, c'est un peu désagréable. Mais bon, hein, je veux dire, il y a des cumulards, c'est comme partout. Et à mon avis, il devrait finir en politique. Bon.
No. it's not a question. You can now try and express yourself. Basically, you tell what you
want. Bonjour. I apologize for my lack of French. I can manage a little French, but it's so slow and awful, it's embarrassing. And my friend here, Lionel, the handsome one, will he's a kind of sort of stunt Chris.
Donc je suis désolé pour mon manque de français, j'arrive à le parler un petit peu, mais je le parle vraiment pas bien, c'est très long, donc c'est un petit peu gênant. Donc je vais confier à Lionel le fait d'être ma doublure Chris.
Well, without a question from Jean-Claude, I don't really have an answer, I'm afraid. You've silenced me.
Bon, bah écoutez, donc je suis censé poser des questions. Alors, on va commencer par ton dernier livre. Ton dernier livre a provoqué un certain nombre de débats entre nous ici, parce que ce qui était fascinant, c'est que tu as abordé les épisodes du 11 septembre. C'était vraiment en actualité, puisqu'on a fêté malheureusement cet anniversaire il y a très peu de temps. Et il l'a abordé sous l'angle du doute, c'est-à-dire sous l'angle de « cette histoire a été très mal racontée, qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce que cache le fait qu'elle a été racontée aussi mal ?»
Ok. The title of the book in English is an American story. That had to be changed for boring reasons in France. But the reason it's called an American story is because it's about a story, not about an event. And the story is the one that the United States authorities tell about 9/11. And we've all heard that story about Arab terrorists and hijacking planes and kind of doubt about the Saudi involvement, this kind of thing. If you go into the story and analyze what they say, at every point of the story, there is either doubt or a blatant lie. It's not a true story, and that interests me. They're not telling us the truth. And firstly, what is the truth? And secondly, why are they lying? So that's what the novel is about.
Alors, le titre en anglais de conséquence d'une disparition, c'est An American Story, donc une histoire américaine qu'il a fallu changer pour des raisons pas très intéressantes en France. Mais donc ça s'appelle une histoire américaine parce que ça ne parle pas d'un événement qui serait le 11 septembre, mais d'une histoire qui est le 11 septembre. Et cette histoire, c'est celle que les autorités américaines nous parlent à propos de nous racontent à propos de cet événement. C'est une histoire qu'on connaît tous, qu'on a tous entendu à propos des terroristes arabes, le détournement des avions, peut-être l'implication de l'Arabie Saoudite, etc. Bref, mais cette histoire-là, si on l'analyse, à chaque étape, à chaque élément, il y a soit des éléments de doute, soit un mensonge flagrant. Donc cette histoire n'est pas vraie, et on ne me raconte pas la vérité. Et donc il y a deux questions qui se posent pour moi tout de suite, c'est déjà, la vérité, qu'est-ce que c'est ? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a ce mensonge?
Oui, en fait, moi j'ai une question pour Chris, parce que je pense que la raison qui peut pousser un auteur comme Chris à s'interroger sur un phénomène comme le 11 septembre, ce n'est pas que l'histoire elle-même soit remise en question, etc., c'est que c'est une mauvaise histoire. Et c'est Christopher, c'est quelqu'un qui non seulement sait raconter des histoires, mais sait raconter des histoires extrêmement complexes en tissant des tapisseries très fines, avec des motifs dans les motifs dans les motifs. Et je pense que quand on entend l'histoire du 11 septembre telle qu'elle a été racontée, on entend non seulement une mauvaise story, mais une mauvaise histoire, mais une histoire qui n'a même pas fait l'effort d'être crédible. Et c'est là qu'on se pose la question.
It's ironic because I believe that one of the only ways to tell the truth is through fiction. One of my earlier novels, La Fontaine Pétrifiante, is explicitly about this. It's about the only way to find truth is by fictionalizing yourself. But in this case, with the 9/11, There are motives. I don't understand the motives. Why are they being secretive? Why are they lying to us? And it's like everything else. If you know somebody's lying, it's kind of a disgusting feeling. You feel we don't deserve that. We need to know the truth. And my book is about that quest for the truth. And it's told through the medium of various psychological phenomena which I find interesting. One is cognitive dissonance, which is the holding of simultaneously of two beliefs. One is one you know to be true and one which you know to be untrue. And that creates a sort of psychological tension. An example of that is people who smoke. They know damn well they're killing themselves with cigarette smoke. But they carry on and say, oh, it makes me feel grown up, puts me at my ease, and, you know, there are many worse things than cigarette smoke, they're going to kill you. But they're basically not confronting the truth. And I feel that in the USA, there is a big case of cognitive dissonance. The people in America saw what happened. They've been told what happened. They also know it's not true. They do nothing about it.
Alors, c'est ironique parce que je crois que la seule manière de dire la vérité, en fait, c'est de passer par la fiction. Un de mes précédents romans, La Fontaine Pétrifiante, parle très explicitement de ce sujet-là, c'est-à-dire que la seule manière d'atteindre la vérité sur soi, c'est en fait, c'est de se fictionnaliser, c'est de se rendre une fiction, c'est de devenir une fiction. Et donc, la première question moi, qui me vient concernant le 11 septembre, c'est les motifs, c'est pourquoi ces mensonges, pourquoi cette fiction. Quand on sait que quelqu'un vous ment, c'est véritablement une sensation très désagréable, et on a besoin d'avoir cette vérité. Donc le roman parle de ça, c'est une quête à propos de cette vérité, et c'est raconté à travers le prisme de différents phénomènes psychologiques, et l'un d'entre eux c'est la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand vous avez deux croyances, deux notions dans votre tête qui sont contradictoires. Il y en a une, vous savez que c'est la vérité, et l'autre, vous savez que ça n'est pas la vérité, et ça crée une tension psychologique. Un exemple classique, c'est les gens qui fument, par exemple. D'un côté, ils savent qu'ils sont en train de se tuer à petit feu, et en même temps, ils continuent tout en disant « oui, mais ça me fait sentir adulte, ça me met à l'aise, et puis il y a des trucs pires que ça, etc. etc. » Mais la vérité, c'est que ils ne confrontent pas cette contradiction. Et je pense qu'aux États-Unis, il y a un cas très très sévère de dissonance cognitive. Les Américains ont vu ce qui s'est passé, on leur a dit ce qui s'est passé. Ces choses-là ne sont pas en raccord, et ils font rien à ce sujet.
In the there's another element to the book which is about something called the Thomas theorem, which very few people seem to have heard of. You know everything.
No, I'm not, but it's part of the thing I'm working for on Ebba, so
yeah,
I've heard about it.
The Thomas theorem is a psychological theorem. It's not a mathematical theorem. What it basically says is that if there's an event of sufficient interest, in the end, what we remember is the consequences of that event, not the event itself. And that thread runs through the entire book. That is, it's all about the consequences.
It's more than the consequences, it's how the story is told.
Stay free.
Okay. Yeah, but I'm talking to you directly. Okay. If per essay, it's you remember the consequence, not the original act. You also remember the way the act has been told. Yeah. So that's consequence.
Yeah. You see, one of the things I found extremely interesting is I got a copy of the Congressional Report, the famous investigation into 9/11. And in the foreword to that, the chairman of the commission, a man called Philip Zelikoff, actually says, and this is quoted, I quote this as the epigraph of the book, he says, if an event is of sufficient interest, what people think about it is more important than what really happened.
That's stunning.
Yeah.
Et notamment, parmi ces éléments psychologiques qu'il y a dans le roman, il y a un élément qu'on appelle le théorème de Thomas, qui n'est pas un théorème mathématique, mais qui est un théorème psychologique. Et qui dit, de manière résumée, que quand un événement est suffisamment intéressant, au final, ce dont on se souvient, ce sont les conséquences de cet événement et pas l'événement en lui-même. Et cette notion, c'est un fil narratif qui court à travers l'ensemble du livre. Et j'ai donc, pour le livre, obtenu et étudié une copie du rapport de la commission qui s'est occupée d'enquêter sur le 11 septembre. Et dans l'avant-propos, par Michael Philip Zelikoff, c'est d'ailleurs une citation qui est au début du roman « Conséquences d'une disparition ». Et c'est cité, hein, c'est dit, c'est comme ça que le rapport sur le 11 septembre s'ouvre. Il est dit que quand un événement est suffisamment intéressant, ce qui compte davantage, c'est la manière dont on le considère, c'est la manière dont on le pense, plutôt que la vérité des événements et de ce qui s'est vraiment passé.
Finally, there's an attack on social media.
Right.
I'm sure I'm in a minority here because most people are using social media. I think it's a social ill. It's a very dangerous event that's taking place in the world. I noticed today that the Facebook has closed 50 million sites because it's been hacked into, and it's and one of the central characters in my novel, around the time that Twitter and Facebook are starting, and he visualizes ahead what's going to happen. At that point, hundreds of thousands of people were using social media. Of course, now it's many millions of people, so it's much larger. But he talks about the democratization of opinion, how social media gives everyone a voice, everyone has the same equality of knowledge and the event and how that should be interpreted. And he said this will lead to a culture of opinions, not a culture of facts. Which is what's happening.
Yeah.
Et pour terminer, dans le livre, il y a clairement une pique envers les réseaux sociaux. Je pense que je suis un peu dans la minorité ici. Tout le monde utilise les réseaux sociaux, mais moi, je ne les aime pas du tout. Je considère que c'est pas ce sont pas des réseaux sociaux, ce sont véritablement des maladies sociales. Je pense que ce sont des événements et des fondations qui sont extrêmement dangereuses. On vient par exemple encore d'apprendre qu'une fois de plus, Facebook s'est fait pirater avec 50 millions de comptes qui se retrouvent dans la nature. Un personnage central dans le roman, donc finalement l'événement le 11 septembre, ça commence. Enfin, un personnage dans le roman, il a son fil narratif au moment où Facebook et Twitter commencent à décoller. Et à l'époque, il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes qui utilisaient ces outils. Maintenant, là, aujourd'hui, bien sûr, c'est des plusieurs millions. Et il dit dans le livre qu'avec la démocratisation de ces outils, tout le monde a une voix, tout le monde raconte des choses et tout le monde peut s'exprimer sur la même pied d'égalité que tout le monde, que n'importe qui d'autre. Et donc que ça va conduire à une culture d'opinion et pas à une culture basée sur des faits. Et bah, c'est plus ou moins ce qui est en train de se dérouler, je pense.
De ce côté-là, d'ailleurs, quand vous regardez les Facebook depuis quelques années, en particulier l'évolution de Facebook, vous avez véritablement la situation dans laquelle vous avez des groupes de pression, des gens qui décident qu'ils raconteront la même histoire, toujours de la même façon, de manière à ce qu'elle devienne vraie. Que l'histoire soit vraie ou pas au début, ça n'a aucune importance. Mais si vous mettez suffisamment de films, suffisamment d'opinions, suffisamment d'analyses qui se répondent les unes après les autres, vous obtenez le Brexit, vous obtenez les dernières élections américaines, vous obtenez un certain nombre de choses parce que on vous a raconté l'histoire toujours de la même façon. Et vous avez des tas de gens, y compris mes enfants d'ailleurs, qui vous disent à un moment donné, l'histoire ne devient vraie que quand je l'ai racontée. J'ai fixé, en écrivant sur Facebook ou sur Tinder ou ce que je veux, la manière dont les choses se sont déroulées, et à partir de maintenant, c'est comme ça. J'ai essayé de le faire honnêtement, j'ai essayé de le faire au mieux de mes souvenirs, mais je pars du principe que j'ai mis une espèce de forme définitive. J'ai gravé dans le marbre. Alors en fait, c'est pas vrai. Et vous avez énormément de gens qui font coexister des points de vue complètement différents, basés à chaque fois sur des films, sur des photos, qui n'ont même pas été truqués. C'est juste qu'on les a pris de différents endroits, et on vous dit, là c'est comme ça, non c'est pas comme ça, non c'est pas comme ça, non c'est pas comme ça. Et aucune déduction n'est devenue possible. Et le 11 septembre, dans le livre de Christopher, c'est vraiment ça aussi. It's also like this.
If you read transcripts of a trial, a criminal trial, if you read the transcripts of a court trial, one of the things that is fascinating is when you read the witness evidence that was given in court. The witnesses are always sworn to tell the truth. They try to tell the truth, and they try to remember what they saw and report it to the court. This is what they're there to do. But almost invariably, if there is more than one witness to a crime or an event, their versions will differ. They will say, well, yes, I saw both men walking down the road, and one of them had this big knife. And then the next witness will say, well, there were actually three men, and I didn't see a knife, but one of them had a club. And then the next witness will say, well, I didn't see anyone walking down the road, but these guys got out of the car and ran away. And so it's very interesting. Who's telling the truth? Who? Everyone believes they're telling the truth, but somebody is misremembering. Somebody is inventing or falsifying a part of a memory. They're trying to make a story out of what they think they saw. And this is where the whole idea of social media becomes very dangerous, because that is social media. It's people are reporting on half-remembered things, some of which are already untrue when they come across them. And so gradually you get this mountain of counterfeit opinion. It's very scary.
Ce qui est intéressant, c'est par exemple, vous regardez les minutes d'un procès criminel, par exemple, une chose qui je trouve absolument fascinante, c'est quand les témoins sont appelés à exprimer, dire ce qu'ils ont vu, ils jurent de dire la vérité, ou du moins d'essayer de faire de leur mieux, et ils doivent se rappeler ce qu'ils ont vu et le dire à la cour. Et de façon quasiment invariable, si vous avez plus d'un témoin qui ont accès aux mêmes événements, et ben les témoignages diffèrent. Vous avez un premier témoin qui dit « Alors j'ai vu deux hommes marcher sur la route, et il y en avait un qui avait un couteau. » Et le témoin d'après va dire « Non, non, il y avait trois hommes, moi j'ai pas vu de couteau, mais l'un d'eux avait un gourdin. » Et puis le troisième témoin va venir « Non, non, mais... » Enfin, ils marchaient pas sur la route, moi je les ai vus descendre d'une voiture et courir en s'enfuyant. Qui dit la vérité ? Chacun croit dire la vérité, mais visiblement il y en a un ou plusieurs qui falsifient des choses, probablement involontairement, mais qui essayent de reconstituer une histoire à partir des choses qu'ils ont vues et de souvenirs erronés. Et je pense que c'est exactement ce qu'on voit avec les réseaux sociaux, et c'est pour ça que ça me paraît extrêmement dangereux. C'est parce qu'en fait, on construit une version de choses dont on se rappelle déjà à moitié et qui étaient peut-être déjà pas vraies quand on les a rencontrées. Et donc les réseaux sociaux accumulent des montagnes et des montagnes d'opinions contrefaites. En fait.
Là on touche à mon avis à un des points centraux de la manière dont Christopher écrit. Parce que Christopher a cette capacité de prendre des morceaux, des éléments, des pièces de vitrail, et à partir de là de les assembler pour qu'on voit une histoire se produire, tout en montrant qu'on a la possibilité de réarranger les morceaux différemment et d'obtenir une histoire différente. On a vu le film Le Prestige hier qui passe en permanence là-dessus, c'est-à-dire qui demande quelle est la vérité derrière l'illusion. Je comprends qu'on veuille nous raconter une histoire, c'est le jeu, le magicien est là pour me faire un tour, mais derrière, non seulement je veux comprendre comment le tour fonctionne, mais je veux aussi comprendre pourquoi il a choisi de raconter l'histoire de cette façon. Et dans le cas du dernier livre, justement, sur le 11 septembre 2001, la question, c'est pas seulement comment on a pu raconter cette histoire à partir des différents fragments dont on dispose, mais pourquoi a-t-on choisi de la raconter de cette façon? Et surtout, c'est tellement frustrant parce que pourquoi a-t-on choisi de la raconter aussi mal, avec autant de trous, sans avoir ne serait-ce que l'intelligence de construire quelque chose de mieux fait? Et je regrette presque que ce ne soit pas Chris qui ait raconté l'histoire du 11 septembre, parce qu'elle aurait certainement été beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus frustrante, certainement aussi, mais beaucoup plus intéressante.
Magicians tell a story. They show you something, they do something with it, and they produce something at the end. This is the, if you saw the film last night, The Pledge, The Turn, Prestige. And that is, the essence of magic is, of course, it's a surprise. They do something that you didn't know is going to happen. You think you've got all the facts. They show you the rabbit or the pack of cards or the cabinet. They show you everything you think you need to know about it, established beyond doubt, it is what you think, and then they prove that it wasn't. And that is very much, to my mind, the way fiction works, that fiction tells you a lot of things, and a lot of it can't be trusted, even though it's true. And I'll give you an example. If I said to you, last month I went to, let's say, Moscow, and I flew on a certain airline, and I flew on a certain date, and I stayed in a certain hotel, and I went to this lesson, did this, then I moved on, I went back to Berlin, and I flew on this airline, and I thought, you know, give all the details. A story which could be checked out. You could check that the flights took place, that he did go to that hotel, and that he was in those places, as he said. You think you've got the whole story. But what that person didn't tell you would be perhaps that he murdered somebody while he was there. And so that is only, although completely true in itself, it's not true completely.
Les magiciens racontent des histoires, ils la manipulent et ils font quelque chose avec cette histoire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez vu le Prestige hier soir, ce sont les trois étapes d'un tour de magie, la promesse où l'on montre un objet, le tour où l'on fait quelque chose d'inattendu avec, et le prestige où il y a la chute et la révélation. C'est l'essence de la magie, c'est la surprise. Vous pensez détenir tous les faits, par exemple, on vous montre un lapin, on vous montre un jeu de cartes ou un placard, etc. On établit que oui, c'est bien ce que vous pensez, c'est bien un lapin normal, un jeu de cartes normal, un placard normal, et puis finalement, le magicien fait quelque chose avec qui prouve que ça n'était pas ce que vous pensiez, et c'est là que la surprise arrive. Et je pense que c'est beaucoup la manière dont la fiction fonctionne. La fiction vous raconte beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses auxquelles on ne peut pas faire confiance. Par exemple, imaginons que quelqu'un vous raconte une histoire et vous dit, bah, par exemple, le mois dernier, j'étais à Moscou, j'ai pris tel vol à telle date, j'ai séjourné dans tel hôtel, j'ai vu telle chose et telle chose, ensuite je suis allé à Berlin avec, là aussi, tel vol, je suis resté dans tel hôtel, etc., etc. Tout ça, c'est une histoire qui est vérifiable. Vous pouvez aller regarder si les vols étaient bien les bons et qu'ils ont bien eu lieu à cette date-là, vous pouvez aller consulter le registre de l'hôtel pour voir si la personne était bien là. Donc vous avez bien tous les éléments, ils sont vérifiables, vous pensez détenir tous les éléments, mais il peut rester des zones d'ombre. Par exemple, cette personne-là peut ne pas vous dire quelque chose, par exemple, elle peut avoir assassiné quelqu'un pendant son séjour, mais vous n'êtes pas au courant. Donc, c'est là toute l'essence de la chose, c'est-à-dire que bien que vous ayez une histoire qui soit complètement vraie en elle-même, et qui est vérifiable, elle n'est pas vraie complètement, parce qu'il reste des zones d'ombre.
Et justement, ce qui rend, pour nous, auteurs français, ce qui rend quelqu'un comme Christopher Priest aussi intéressant comme écrivain, c'est parce qu'on a le sentiment que, à l'intérieur des livres qu'il écrit, se cachent des histoires que seule la personne qui sera capable de lire le livre d'une certaine façon ou d'en extraire ce dont il a besoin, sera capable de trouver. Il a en particulier une série d'histoires qui se passe dans un univers qui s'appelle l'archipel du rêve, et dans lequel des personnages vivent d'une île à l'autre et vivent une histoire, et il faut lire le livre avec beaucoup d'attention, quelquefois le relire, pour s'apercevoir qu'en parallèle de ce que l'histoire raconte, il y a tout un tas de petits détails qui nous font comprendre que quelque chose d'autre s'est produit et qu'à la fin, l'assassin, c'est lui. Mais Christopher est quelqu'un qui ne vous dit pas trouver l'assassin, il vous dit même pas qu'il y a eu crime. Il vous laisse donner l'impression que quelque chose s'est passé, et à la fin du livre, vous dites, c'est passé un truc que je n'ai pas vu, et quelquefois vous replongez dedans, vous dites, ah oui, pendant qu'il a fait ça, il a dû faire un truc. Et ça, c'est la force des bouquins de Christopher, c'est le fait qu'on en a les limites plusieurs dans un même livre.
Non, I'm a fan. C'est pour ça qu'ils m'ont invité d'ailleurs, c'est pas parce que je suis beau gosse.
Good question. I believe profoundly and seriously that the act of reading is as creative as the act of writing. And the medium between the book or the magazine is a kind of code in which the writer communicates to the reader a series of images. When you read the book, you read the words, but you don't remember the words. Nobody could read a book and then say, oh, now on page 72, what was the 15th word on the third line? No one would know, even the writer.
Which book?
even the writer couldn't tell you. So clearly, if you read the book, you're doing more than understanding the words. And I believe that the code, the cipher, the words of the book are a kind of a way of triggering in the mind of the reader images which the writer perhaps shared but certainly wanted to stimulate. So everyone who reads a book will read it differently. You will bring a personal interpretation to it. And if there's a thing missing at the end, as Jean-Claude has said, this feeling of unknown, I think that's true of life. I go through life wondering what the hell is going on.
Je crois profondément et très sérieusement que l'acte de lire est aussi créatif que l'acte d'écrire. Je pense que le médium de la littérature, du magazine, etc., de la langue écrite, c'est une sorte de code qui permet à l'auteur d'évoquer des séries d'images dans l'esprit du lecteur. Quand on lit un livre, on ne se rappelle pas des mots individuels. On ne se dit pas « Ah oui, tiens, je me rappelle très bien le troisième mot de la quatrième ligne de la page 72 ». Même l'auteur, il est incapable de se rappeler ça. Donc, très clairement, il se passe là quelque chose qui va bien au-delà de la simple compréhension des mots. Et je pense que le langage est un code qui permet de, déclencher des images dans l'esprit du lecteur, de les stimuler. Ce sont des stimuli au sens le plus strict du terme. Et ça signifie que chaque personne qui va lire un livre lira un livre différent, puisque chaque personne va créer ses propres univers et y prêter son propre intérêt. Mais j'aime bien quand Jean-Claude dit qu'on a un peu l'impression qu'il peut manquer quelque chose à la fin, mais je pense que la vie fonctionne comme ça. J'ai traversé la vie en me demandant, mais bon sang, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en fait ?
Oui, je pense que pour rejoindre Chris, quand on écrit, c'est comme si on jetait les cailloux dans l'eau. On fait des rives dans l'eau, vous savez. Et ce qu'on demande à un écrivain, c'est de jeter plein de cailloux en même temps pour que les rives forment un joli motif à la surface de l'eau. Mais un bon écrivain, c'est quelqu'un qui fait un joli motif à la surface de l'eau et qui en même temps dérange les bêtes qui sont dans les profondeurs, qui remontent et qui font leur propre rite sur l'eau et qui brouillent un petit peu le message avec le sentiment qu'il y a quelque chose en dessous mais qu'on ne verra peut-être pas. Ça, c'est un bon écrivain pour moi. Ça, c'est quelqu'un qui fait ce genre de choses. Et dans un certain nombre des livres de Chris, on a véritablement le sentiment qu'il sait à quel point l'eau dans laquelle il jette ses cailloux est profonde et à quel point il y a des choses en dessous que lui sait mais que vous ne serez capable de voir qu'à travers les reflets sur l'eau. Et son travail, c'est que les reflets sur l'eau soient bien faits.
I'm just trying to make a living.
J'essaie juste de gagner ma croûte, moi.
C'est juste comme Bob Dylan, où un jour, je ne sais plus, c'était, je crois, le président Clinton qui lui dit, mais comment as-tu réussi à exprimer des choses aussi profondes, etc., dans tes textes, enfin vraiment essayer de faire passer ce genre de choses. Et il lui a répondu, I just trying to make it rhyme, man. J'essaie juste de le faire rimer.
You're Bob Dylan, man.
No, Bob Dylan is you. More like that. Okay. Bon,
sorry, je suis désolé, il faut lui poser des questions parce que sinon il ne sait pas quoi dire.
So we have to ask him questions. He doesn't know what to say, so questions from the audience.
Bonjour. Par rapport à l'archipel du rêve, j'aurais voulu savoir comment vous est venue l'idée de cette topographie, et est-ce que vous ne vous êtes pas inspiré un petit peu des îles écossaises? Je suis allé en Écosse au printemps, et j'ai trouvé que les îles écossaises ressemblaient un petit peu au monde que vous décrivez.
I don't know whether you know, but I now live in the Scottish Islands. I 2 years ago we moved to live in Scotland, and it's an island life. It's really something. Where we live, the last boat arrives late in the evening, and after that, you can't get off the island until the next day. So it's the real island. What was the question?
what is your inspiration?
No, well, the inspiration. Well, it started as a kind of amalgam between where I was living at the time, which was a place called Harrow in London, which was a little village in the middle of on the edge of London, which has a very beautiful hill. And I used to look at this hill to see it as an island. It also came from a visit to Greece, where I was moving amongst islands, and I got some feeling for the idea of hopping, you know, going from one island to another. And it was also based on a time I spent in Australia, which for me was a very familiar but totally alien landscape. I mean, you have blue trees and red soil and yellow grass. It's very, you know, you know it's grass and it's trees and it's soil, but they look different. And trees smell of cough drops. And so that sort of familiarity made alien. That was really the idea of the islands. Something familiar but strange.
Alors, ben, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, je vis maintenant parmi les îles écossaises, puisqu'en fait, il y a un an, on a déménagé pour vivre sur l'une d'elles. Et la vie là-bas est assez particulière et merveilleuse. Par exemple, le dernier ferris part à 8h du soir, et une fois qu'il est parti, et ben, vous ne pouvez pas quitter l'île. On est vraiment isolé jusqu'au lendemain. Pour l'inspiration de l'archipel du rêve, c'est un petit peu à l'origine un amalgame entre Harrow, qui est l'endroit de Londres où je vivais, qui est une espèce de petit village sur le bord de la grande agglomération de Londres. C'est au bord d'une colline, et puis je regardais cette colline et je la considérais, j'imaginais un peu que c'était une île. Il y a aussi eu une visite en Grèce où, justement, en passant d'île en île, j'ai eu cette idée de voyage, de passer d'une île à une autre. Et puis, j'ai passé un temps en Australie où j'ai été confronté à un paysage qui était à la fois familier et étranger, où là-bas, vous avez des arbres qui sont bleus, la terre qui est rouge, l'herbe qui est jaune. Vous avez des arbres qui sentent le sirop pour la toux. Enfin, c'est il y avait cette espèce de vous regardez ça, vous voyez très bien que c'est un arbre, vous voyez très bien que c'est de l'herbe, etc. Mais ça colle pas à ce que vous connaissez. Donc, il y avait cette idée de familiarité rendue étrangère en même temps, familier mais étrange à la fois. Donc tout ça, ça a donné l'archipel du rêve.
When you see the duck-billed platypus, your life changes forever.
Oui, quand vous voyez un ornithorynque, votre vie ne change jamais.
Est-ce que l'archipel du rêve n'est pas aussi une façon de, je dirais, de profiter, de créer une espèce de discontinuité obligatoire, d'éviter d'avoir une histoire qui soit continue d'un endroit à l'autre, pour dire il y a des sauts et vous n'aurez que des pièces. Parce que si vous regardez l'archipel du rêve dans les différents îles, vous vous apercevez qu'il y a des îles de toutes sortes. Vous avez des îles exotiques, des îles paradisiaques, des îles froides, des îles nordiques, toutes sortes d'îles. Mais vous avez des éclats. C'est un petit peu comme si on avait jeté des morceaux d'une histoire dans la mer et qu'entre-temps, il y ait des sons. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que par le simple voyage, le lecteur est obligé de reconstituer les pièces manquantes, et c'est là qu'il fabrique le livre.
But this is what life is. Life is full of unfinished things. You hear things on the news, you never quite find out what happened at the end. And people come into your life, and you know, you get to know them, and then you don't see them again. And, I think that's really what the islands are about. It's the continuing strangeness of ordinary life. And I don't see it the way you do. I'm not denying what you say, but it's not as contrived as you think. It's to do really with people start things without realizing what the consequences will be. There's, you know, the theory of unintended consequences, and those have always interested me that people have an intent to do something, it turns out differently, and that difference can sometimes be very bad, but sometimes it can lead to the discovery of lasers or stem cell surgery.
Je pense que, en fait, c'est l'essence de la vie. La vie est pleine de choses qu'on ne finit pas. Vous regardez le journal et puis vous entendez parler d'événements. Vous n'avez jamais vraiment un dénouement, vous ne savez jamais vraiment le fin mot de l'histoire. Des gens traversent votre vie, vous les voyez à un moment et puis après vous ne les voyez plus. Et je pense que c'est vraiment ça l'essence des îles et de l'archipel. C'est pour décrire le continuum de l'étrangeté de la vie ordinaire, en fait. Je suis pas en train de dire que ce que tu dis est faux, mais je pense que c'est pas aussi volontaire en tout cas. C'est que je pense que souvent les gens commencent des choses sans penser aux conséquences. C'est la théorie des conséquences non désirées. Et quand on commence des trucs, on prévoit pas les conséquences. Parfois on a des intentions et puis ça arrive à un endroit très différent que ce qu'on imaginait. Parfois ces conséquences sont très mauvaises. Et puis parfois on découvre les lasers ou l'étude des cellules souches. Donc, et parfois c'est positif. Mais je pense que la vie fonctionne comme ça.
Also, Lionel is familiar with this, but I have a hatred of people who put maps into books, including Lionel. I have a hatred. I just think that one should write a book, which, as I was saying earlier, evokes its own images, and so you create your own landscape by reading it, and putting a map in kind of makes that too easy. And one of the designs of the Dream Archipelago is that you can't map it. There's actually one of the stories is about a group of cartographers trying to map it, and the problems they have with the topography of the place. Part of the problem is the thing keeps changing shape. If you fly over one island from north to south, it looks one way. If you fly over it from east to west, it looks another way. But if you then go back north-south, it's changed again. And so that makes things difficult. And also, a lot of the islands have the same map references as each other. And a lot of them have the same name. And a lot of them have very similar shapes, but they're on the other sides of the world. This is my personal intervention to stop people drawing a map.
Lionel sait, est au courant de ce que j'en pense, mais je déteste les cartes dans les livres et je déteste les auteurs qui mettent des cartes dans les livres, y compris Lionel. Mais comme je disais tout à l'heure, les livres sont faits pour évoquer des images et créer des paysages dans l'esprit du lecteur, et mettre une carte, ça rend la chose trop facile. L'archipel du rêve, par sa conception, on ne peut pas en établir une carte. D'ailleurs, il y a une nouvelle à un moment où on a un groupe de cartographes qui s'efforce de réaliser une carte de l'archipel et puis qui se rend compte tous les problèmes de topographie qu'ils ont parce que tout n'arrête pas de changer de forme. Par exemple, vous pouvez survoler une île en avion du nord vers le sud, elle va vous apparaître d'une certaine manière. Vous la survolez d'est en ouest, elle va vous apparaître d'une manière complètement différente. Vous la resurvolez du nord au sud et elle aura encore changé de forme. Donc, ce qui vient se rajouter à ça, c'est que il y a beaucoup d'îles qui en fait ont le même nom, d'autres qui occupent des mêmes coordonnées, d'autres qui ont des formes extrêmement similaires mais qui se trouvent à un bout différent du monde, etc. Bref, tout ça, c'est mon intervention personnelle pour empêcher les gens d'écrire des cartes.
finally, it's actually impossible to draw a map. I don't know if you know this, but maps have to be projected. And there has yet to be a wholly successful projection of a sphere onto the flat plane of a piece of paper. It will always be distorted, always be wrong. You could simulate it to a certain extent with the computer software, but you never quite get an accurate map. And also, maps are inherently political, and that's another reason to hate them. Oh, sorry.
Keep hating me.
Et puis donc aussi ce que je voulais dire c'est que il est impossible d'écrire de créer une carte qui soit exacte parce que évidemment toutes les cartes doivent être projetées et on n'a pas encore trouvé de projection mathématique qui permette de projeter convenablement une sphère sur un plan. On peut le simuler et l'approcher assez bien avec un ordinateur, mais c'est impossible d'arriver à quelque chose qui soit absolument exact et qui respecte dimension, surface, angle, etc. Et on peut s'ajouter à ça le fait que les cartes par nature, de manière inhérente, sont politiques, et c'est une raison supplémentaire de les détester.
Il y a une nouvelle de science-fiction d'Aloysius Laferty, qui est extrêmement célèbre, où on demande à un groupe de cartographes de fabriquer une carte du monde qui soit effectivement utilisable et qui représente des états. Et la seule façon qu'ils ont de le faire, c'est de refabriquer le monde vraiment au millimètre près, ailleurs, et donc ils mettent un autre endroit. Et évidemment, la seule présence de cette seconde planète de la taille de la première perturbe la première, ce qui fait que la carte devient fausse, et évidemment, tout le monde se comprend.
Causes problems with our own Earth, so the map becomes instantly wrong.
Yeah, okay. Bon. Écoutez, je pense qu'on arrive pratiquement à la fin. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que vous avez sûrement des questions intelligentes. Est-ce que vous avez des questions posées? T'as une question à poser ou...
Non.
Lâchez-vous. Sinon, je peux continuer à embêter Christopher. Mais non, c'est...
He says, do you have any questions, but I keep...
people who like maps in books.
Qu'est-ce qui aime les cartes dans les livres, d'accord.
We'll follow your answer.
Other my readers.
But, bugger off.
Mais ce que je trouve extrêmement intéressant dans cette approche-là, c'est qu'il y a aussi le sentiment, et ça c'est rare d'obtenir ça dans un livre, on l'obtient heureusement quelques fois, le sentiment que le monde a changé entre le début du livre et la fin, y compris le livre lui-même, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sûr de relire la même chose. Et cette espèce de sentiment vertigineux, cette espèce de ce que j'appelle la métamorphose, parce que c'est véritablement comme ça que je définis la science-fiction, pour moi, c'est l'essence même de la science-fiction. Et c'est aussi l'essence même de la manière, pour moi, dont Pris me fait travailler quand je lis. Il m'oblige à considérer que ce que je lis n'est pas tout à fait stable et qu'il va donc falloir que je sois attentif parce que derrière moi ça va changer. C'est un petit peu comme dans ces dessins animés où quand vous avez le personnage qui avance, derrière il y a tous les éléments du décor qui se dépassent de changer juste pour lui faire une blague. Et bien, Chris fait ça avec ses bouquins, c'est extrêmement agréable. C'est pour ça que j'aimerais bien une carte personnellement, mais bon, c'est peut-être pas la peine.
That's why I would like a map personally, but you know, I don't want to have one.
You see, the thing is, what Jean-Claude just said, when I started reading science fiction, I was a teenager, and I lived in this mundane world of, you know, uncles and bosses and parents and stuff. And when I started reading science fiction, I suddenly realized there was a whole new way of looking at the world. It was questioning, it was to say, don't believe what you're told, and things could be better, or things might be worse. It was really enlightening to me, and that is, for me, what we should be doing. It's a literature of confrontation, of challenge, of saying to somebody, look, you don't have to put up with this shit. There's more to life. You can do more with it. And so that's really what I'm trying to do, and I've always been trying to do as a writer, to make you see things differently. Not because I know better, but because I'm interested in that process.
Je trouve ça très intéressant ce que Jean-Claude vient de dire, parce que quand je lisais de la science-fiction que j'étais adolescent et que je vivais dans un monde très barbant, constitué d'oncles, de patrons, de parents, et que j'ai commencé à commencer la science-fiction, elle m'a montré une manière entièrement différente de considérer le monde, qui me disait qu'il ne fallait pas nécessairement que je croie ce qu'on me disait, mais que les choses pouvaient être vues différemment, d'un meilleur angle, ou d'un angle plus mauvais d'ailleurs. Et je pense que c'est ce qu'on devrait faire de manière constante, nous forcer, nous défier, nous pousser à essayer de voir un peu plus loin, de nous dire, comme la science-fiction nous disait, t'es pas obligé d'accepter toute cette merde dans le monde, on peut faire davantage, on peut aller plus loin. Et c'est ce que j'essaie de faire en tant qu'auteur, c'est j'essaie de montrer, d'encourager le lecteur à voir les choses différemment, pas parce que je sais mieux comment les choses fonctionnent, simplement parce que ce processus-là, et c'est ce processus-là qui m'intéresse.
Juste pour Christopher, il y a un livre qui a une loi et qui a fait l'objet d'un livre qui est extrêmement connu, qu'on appelle la loi de Murphy. Quand on est ingénieur, on ne peut pas ne pas en entendre parler. La loi de Murphy, on dit ça gros, ça dit en gros, si ça peut merder, ça va merder. Mais il existe tout un tas de lois de Murphy, et il y a un bouquin qui a été constitué là-dessus, qui est très très drôle, je vous le recommande, mais qui est en même temps plein de finesse et plein d'intelligence. Et il y a une loi qui est très importante pour nous ingénieurs, qui dit, en anglais, « variables won't, constant aren't ». C'est-à-dire, les variables ne vont pas varier et les constantes ne vont pas rester constantes. C'est-à-dire, rien de ce que vous avez posé comme un a priori n'a de chance d'être stable dans la réalité. Et ça, c'est le bouquin de
Christophe. They always have this wonderful strategy for winning a war. They always forget there's going to be an enemy who will fight back. Yeah.
Les meilleurs plans du monde, de toute façon, comme disent l'armée, les meilleurs plans du monde commencent, s'arrêtent la première seconde du champ de bataille.
C'est comme Chris dit, comme les gens qui prévoient des guerres, ils ont des merveilleuses et très pointues stratégies pour gagner les guerres. Ils oublient très fréquemment qu'il va y avoir un ennemi qui ne va pas les laisser faire en face.
No, just conclude. I mean,
sure.
You're the expert about Christopher Priest.
Actually, now I've gone blank. Sorry. Okay. Are there any more questions? Last chance.
Écoutez, je vais conclure donc en remerciant Christopher et en vous encourageant de le lire. Et je dirais presque que c'est un auteur que j'encourage à relire, parce que vous allez lire, vous allez faire la même promenade mais différemment. Si vous êtes déjà arrivé de vous promener dans Venise et que vous êtes passé à un endroit et que vous y repassez deux heures après, ben, vous comprenez ce que je veux dire. Ben, le bouquin de Christopher, c'est à peu près le même.
All I was going to say was I like people rereading my stuff, as long as they buy a new copy.
Je tiens à dire que j'aime beaucoup les gens qui relisent mes livres, surtout s'ils achètent de nouveaux exemplaires à chaque fois.